religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le monde, il y a un millier de femmes rabbins. En France, on en dénombre quatre. Toutes quatre appartiennent à la mouvance du judaïsme libéral. Réunir des femmes rabbins, mais aussi des érudites, des spécialistes, des professeurs qui enseignent en France, en Angleterre, en Israël, aux États-Unis, les textes fondateurs du judaïsme, la Bible, le Talmud, le Midrash, rassembler ces femmes appartenant aux courants divers du judaïsme, orthodoxe, massorti ou libéral, sur le thème du leadership dans le judaïsme et, pour le dire plus concrètement, sur la place des femmes dans l'accès à la connaissance et la transmission des textes religieux, c'est un congrès mondial inédit qui s'est tenu à Troyes les 17 et 18 juin dernier à la Maison Rachi. Quel lieu, en effet, pouvait mieux se prêter en France à cette grande rencontre mondiale, une première en France, que la ville du grand commentateur de la Torah et du Talmud, né en 1040 dans la ville champenoise, où il créa une maison d'études juives connue dans tout le monde ashkénaze et qui a fait de la ville médiévale la capitale historique du judaïsme français. Le vigneron qu'il était aussi, le sage, respecté dans sa ville, l'homme éclairé, était également père de trois filles, dont il considérait qu'elles pouvaient avoir accès à l'étude des textes si elles en manifestaient le désir, d'où l'intitulé de ce congrès « Les filles de Rachi ». Les filles de Rachi ont ainsi pu faire entendre à Troyes les voix féminines du judaïsme. Nous allons les entendre, mais avant, quelques mots sur cette maison Rachi, née en 2017, dans le cadre du grand chantier de réhabilitation de la synagogue de Troyes. Pour la petite communauté juive de la région, la restauration de ce beau bâtiment à colombages n'était pas suffisante. Il était grand temps de s'acquitter d'une dette à l'égard du maître du Talmud, comme le souligne Philippe Bokobza, bénévole très impliqué dans la vie de cette maison dédiée à la connaissance du judaïsme.
On avait cet enjeu extraordinaire d'avoir un très très beau bâtiment en centre-ville, mais très 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 délabré, où il y avait une restauration importante qui devait être faite, donc avec un problème financier très important, il fallait trouver de l'argent et on n'avait pas cet argent. Et c'est là que je parle d'une vraie entreprise de survie, parce que si on avait été découragé, si on n'avait pas fait ces travaux de restauration, eh bien en fait, aujourd'hui, on n'existerait pas. Moi, je ne serais pas là en train de vous parler, parce que la communauté aurait disparu. Il y a autour de nous des villes comme Sens, Vitry-le-François, Épernay, même à Reims, il y a une communauté, mais elle est toute petite, hein. On a du mal à faire des offices, et pas les moyens d'avoir un rabbin qu'on paye, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pourquoi c'est très important, c'est une entreprise de sauvegarde. On a sauvegardé le bâtiment, donc on a sauvegardé la communauté. La deuxième chose, c'est que quand on a fait ces travaux, on a levé pas mal de fonds, on a fait une vraie œuvre architecturale, mais on l'a fait au nom de Rachi. Et là, on n'était pas glorieux parce qu'on n'avait rien fait pour Rachi. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose pour Rachi, on va créer un lieu unique qui n'existe nulle part ailleurs. Hein. On a essayé de chercher dans les grandes villes où il y a des vrais patrimoines juifs, comme Prague, comme Jérusalem, Londres, Berlin. Et en fait, rien n'a jamais été fait dans une synagogue. Et par ailleurs, c'est aussi une aventure humaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec nous. Et on accueille aujourd'hui 4000 visiteurs par an. Je pense qu'on peut aller à 20 000, 25 000, aucun problème. La grande majorité sont non-juifs, donc on est obligé de leur donner accès à la culture juive, à la Bible, au Talmud, et la finalité, c'est Rachi.
Faire de la ville de Troyes la capitale pendant deux jours des voix féminines du judaïsme, l'initiative audacieuse revient à Manon Brissot-Franck de la Maison Rachi, qui revient sur la naissance de ce congrès.
La première vocation de la Maison Rachi de Troyes, c'est de rendre hommage à Rachi, qui a la particularité d'avoir eu trois filles, qu'il a élevées comme des sages. Et donc, je discutais, comme ça m'arrive régulièrement, avec le rabbin Tom Cohen, qui est le rabbin de la communauté Kerila Guécher dans le 17e à Paris, qui est la seule communauté franco-américaine, de la place des femmes dans le judaïsme. Et fort de l'expérience que j'avais vécue en tant que bénévole pour la création de la Maison Rachi en septembre 2017, quand il m'a dit on n'a jamais rassemblé toutes les femmes qui travaillent et étudient les textes dans le judaïsme, je me suis jetée sur cette opportunité en disant mais ça, la Maison Rachi, on peut l'organiser.
Est-ce que c'est compliqué de réunir des femmes orthodoxes, du judaïsme orthodoxe et du judaïsme libéral?
Alors, compliqué, pas vraiment. En fait, c'était même, j'irais, assez facile, parce qu'à chaque fois qu'on les a contactées, elles étaient très heureuses, très honorées de pouvoir avoir la parole, parce que l'idée c'était de dire, voilà, toutes ces femmes travaillent, étudient et on n'entend pas ce qu'elles disent. Et donc la Maison Rachid voulait leur redonner l'opportunité que leur voix puisse être entendue. Donc non, là-dessus on a eu vraiment aucune difficulté. En revanche, ce qui était difficile, c'était de faire comprendre à tout le monde qu'on ne souhaitait surtout pas cliver les gens. Au contraire, on voulait respecter toutes les tendances du judaïsme et que voilà, il y avait beaucoup de femmes. Évidemment, pour la première édition, c'était très important pour nous, comme un symbole, que les participantes ne soient que des femmes, mais que c'était ouvert aux hommes.
Alors cet éventail du judaïsme, il est très large.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques, et puis les pratiques ne sont pas exactement les mêmes en fonction des pays. Il y a des termes même qui ne sont pas les mêmes. Voilà, reformed aux États-Unis ne veut pas dire exactement la même chose en France. Les libéraux en France, la définition de libéral aux États-Unis n'est pas la même, ou même en Israël. Donc l'idée, c'était aussi de dire de manière mondiale comment on peut rassembler toutes les courants du judaïsme, peut-être par famille, c'est-à-dire que la famille des orthodoxes, alors avec les particularités qui font que voilà, on avait la jeune élève rabbin Myriam Ackerman, qui est moderne orthodoxe française et qui a une pratique qui est très proche d'un courant orthodoxe aux États-Unis et qui n'existe pas encore en France. On avait des étudiants rabbins ou des gens qui sont plutôt inscrits dans un courant massorti, parce que s'il y avait ça aussi, c'est qu'il y avait des participants qui sont très intéressés à la question juive, qui fréquentent des synagogues libérales, orthodoxes ou massorties, peu importe, et qui étaient présents car ils avaient envie d'entendre ces femmes.
Massorti, c'est-à-dire, rappelez-nous le.
Alors,
qui sont les massorti? Oui.
Massorti, c'est un courant qui, sans rentrer dans un quelconque jugement, au contraire, se trouve, je dirais, entre le libéralisme et les orthodoxes.
Alors, vous avez organisé ces deux journées de rencontres sous forme d'ateliers, un atelier Bible, Talmud, Halakha, donc la loi, un atelier aussi sur l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce qui est ressorti de ces moments de rencontres assez savantes, hein?
Alors, ce qui était passionnant déjà, c'est qu'il y avait des rencontres entre des femmes qui ont préparé des ateliers de différentes tendances qui n'avaient jamais eu lieu. Par exemple, sur l'atelier Bible, Madame Bernheim et Madame Cohen ont rencontré Madame Tamara Cohen-Ashkenazi, qui est une rabbin libérale américaine, et Madame Bernheim est du courant consistorial. Donc déjà, rien que ça, c'était extraordinaire, puisque du coup, c'était des échanges sur des textes qu'elles connaissent très bien et un travail qu'elles n'avaient sans doute pas eu l'occasion de faire avant. Et donc, quelque part, moi, je prends souvent cette image-là, mais c'était comme porter une nouvelle paire de lunettes pour regarder le même texte.
Qu'est-ce que vous garderez comme temps le plus fort de ces deux jours?
Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je crois que ce que je garderai de très précieux, c'est l'absolue bienveillance et bonheur que tout le monde a ressenti à être présent et rassemblé autour de l'amour du judaïsme.
Une deuxième édition des Filles de Rachi?
On le souhaite très sincèrement dans 2 ans. On aura entre-temps un documentaire qui va sortir retraçant les moments forts de cette première édition, et un livre qui sortira, si tout va bien, dans 1 an, reprenant les échanges sous la forme et le concept d'un Talmud.
Manon Brissot-Franck, organisatrice du congrès Les Filles de Rachi.
Ce soir, tandis que nous sommes à Troyes et que les Filles de Rachi sont en congrès et qu'on nous a demandé de réfléchir ensemble à ce thème controversé, les femmes doivent-elles désobéir pour être des leaders? Eh bien, je regrette d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai envie de suggérer qu'en fait, c'est bel et bien ici, à Troyes, qu'aurait pu être inventé le cheval de Troyes. En tout cas, c'est bel et bien ici et ce soir qu'on doit en parler, parce que ce qui nous réunit ce soir, à mon sens, a quelque chose à voir avec ce dont il fut question dans ce stratagème troyen, à savoir de ruse. Et avant de définir si les femmes ont eu besoin de désobéir pour être des leaders, eh bien, j'aimerais affirmer devant vous ma conviction profonde. Les femmes ont eu à ruser pour être des leaders.
Dans la grande salle de la mairie de Troyes, grande conférence publique dans le cadre du congrès Les Filles de Rachi sur la place des femmes et le leadership dans le judaïsme. Le rabbin Delphine Horwiller anime la soirée et ne résiste pas à la tentation de rapprocher le mode opératoire parfois obligé des femmes avec la ruse de guerre des guerriers grecs pour pénétrer dans la ville de Troyes assiégée depuis 10 ans. Delphine Horwiller, rabbin depuis 2008 de la synagogue du MJLF, le mouvement juif libéral de France, est une figure intellectuelle. Son dernier livre, paru chez Grasset, porte sur la question antisémite et très ouverte au dialogue interreligieux. Elle a signé en 2017 avec l'islamologue Rachid Benzine « Mille et une façons d'être juif ou musulman ». Delphine Horwiller œuvre également pour le dialogue intra-religieux au sein du judaïsme.
En fait, au sein de toutes les traditions religieuses, il y a des tendances différentes. C'est vrai, au sein du judaïsme, comme dans toutes les autres traditions religieuses, il y a des voix plus conservatrices et des voix plus modernistes ou libérales. Et on a souvent l'impression que ces voix, elles peuvent pas se rencontrer, qu'elles peuvent pas se parler, qu'il y a une impossibilité de la rencontre et du dialogue. Et nous, on a essayé de montrer l'inverse, en se réunissant à Troyes et en donnant la parole à des femmes de toutes les dénominations. Il y a des femmes très orthodoxes, il y a des rabbins libéraux ici, il y a des femmes dont l'étude est leur quotidien et d'autres pour qui c'est quelque chose d'un peu plus distant. Mais en tout cas, ces femmes qui viennent de sensibilités différentes, elles se rejoignent ici. Alors peut-être que les femmes ont la possibilité de se rejoindre plus facilement. En tout cas, aujourd'hui, on expérimente le fait que ce pluralisme religieux que certains décrivent comme impossible, et nous, on fait la démonstration du contraire. Il y a une possibilité de se rencontrer et de s'enrichir de cette diversité des points de vue. Et le fait que ça se passe dans une ville comme Troyes, c'est pas du tout anodin pour nous, parce que Troyes, c'est peut-être la plus célèbre ville au monde du commentaire et de la lecture des textes. A vécu ici il y a 1000 ans un homme qui s'appelle Rashi, qui est le plus célèbre commentateur juif au monde. On ne peut pas ouvrir une page de Talmud dans le monde entier, où que ce soit, sans lire le commentaire de Rashi, le champenois, Rashi le Troyen. Et il se trouve que Rashi, qui vivait ici, avait 3 filles, il n'avait pas de fils. Et donc on considère que le fait qu'il ait été entouré tellement du féminin dans sa vie a peut-être eu un impact sur le type de lecteur qu'il était et sur le type de commentateur qu'il est devenu. Et donc, ô combien symbolique que de se retrouver comme des filles de Rashi, bien des générations plus tard, dans cette ville, pour étudier ensemble le texte.
Alors ce matin, un événement marquant, c'est une femme, rabbin, orthodoxe, qui a lu donc la Torah devant des hommes et des femmes. Alors en quoi c'est révolutionnaire ?
En fait, ça l'est et ça l'est pas. Ça l'est pas à l'échelle mondiale, puisqu'il y a des femmes rabbins orthodoxes dans le monde juif aujourd'hui. Il y en a en Israël, il y en a aux États-Unis. Mais c'est révolutionnaire en France, parce que en France, beaucoup de gens considèrent que le judaïsme orthodoxe n'a pas de possibilité de faire de la place aux voix de femmes et au leadership féminin, tout particulièrement dans la prière. Et on a eu ce matin la démonstration du contraire. Il y a ici des femmes de toutes, ce matin à l'office, de toutes les sensibilités du judaïsme. L'office était mené ce matin par des femmes de sensibilité plutôt orthodoxe. Demain matin, il sera mené par des femmes de sensibilité plutôt libérale. Mais on priait tous ensemble, et on le fera à nouveau demain matin. Et beaucoup de gens ici en France ignorent qu'il y a au sein de l'orthodoxie une place, de l'orthodoxie juive, une place qui est faite aussi à l'érudition féminine et au leadership féminin dans la prière. Et on en a eu la démonstration ce matin. Donc c'est à la fois une révolution, et c'en est pas une. C'est une révolution pour ceux qui n'avaient pas conscience de cela. Et c'est comme si on essayait d'ouvrir des yeux et des oreilles à un phénomène qui est un phénomène en réalité mondial, mais dont beaucoup de gens en France ne sont pas conscients. L'accès des femmes à l'étude, à l'érudition et au leadership. C'est une révolution qui a commencé déjà il y a un moment. Mais de façon étrange, la France s'illustre par une forme de conservatisme particulier en matière de religion. Et c'est pas vrai seulement dans le judaïsme, c'est vrai au sein de toutes les traditions religieuses. C'est comme si la France était un peu plus conservatrice dans son expression religieuse.
Il n'y a pas effectivement une vision, en quelque sorte, c'est paradoxal d'une certaine façon, qu'une femme orthodoxe puisse mener la prière. On imagine davantage que ce soit une femme du judaïsme libéral.
C'est beaucoup plus évident pour le judaïsme libéral qui a vécu cette révolution il y a déjà des dizaines d'années. Il y a des femmes rabbins depuis des dizaines d'années déjà dans le monde libéral. Alors c'est particulièrement vrai aux États-Unis, c'est assez vrai en Israël, mais ça existe aussi au sein des mouvances orthodoxes. Et donc c'est intéressant de le montrer, de le faire savoir, que cette révolution, elle a lieu un peu partout, et c'est pour le bénéfice, me semble-t-il, de toutes et de tous. Parce que c'est évident que c'est pour le bénéfice, me semble-t-il, des femmes. C'est-à-dire que les femmes aient accès à l'étude, qu'elles aient accès à l'érudition ou leadership religieux. On peut penser que c'est bien en termes d'émancipation des femmes et de la place qu'elles peuvent avoir dans l'espace public et dans l'espace religieux. Mais moi, je pense que ça dépasse cela. Je pense que c'est bien pour la tradition religieuse en général que des femmes prennent part à l'exégèse, à l'érudition, au dialogue. Je pense que ça rejaillit sur tout le monde, y compris sur les hommes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté de ma petite expérience, et maintenant 11 ans que je suis rabbin. Je trouve que quand les femmes participent à l'exégèse, tout le monde a y gagné, les hommes et les femmes, et la tradition tout entière.
Vous voulez dire qu'il y a une lecture féminine de la Torah ?
Alors c'est une question qui est extrêmement complexe. Moi je ne crois pas qu'il y ait une lecture de femmes de nos textes, mais je crois qu'il y a une lecture féminine des textes. C'est quoi la différence ? C'est que je pense que quand les femmes participent à l'étude, c'est comme si leur simple présence libérait dans le dialogue les voix du féminin. Ces voix du féminin, c'est les voix des cachets du texte, la voix de ceux qui ont été éclipsée dans le texte, la voix de l'altérité, la voix de ceux qu'on n'entend pas généralement dans le texte. Et c'est comme si, quand les femmes prenaient part à l'étude, ces voix féminines étaient libérées, y compris dans la bouche ou dans l'oreille, des lecteurs hommes de ces textes. Donc voilà, moi je crois qu'il n'y a pas de lecture de femmes des textes sacrés, mais je crois que la présence des femmes aux côtés des hommes dans la lecture des textes libère les voix féminines de nos textes, qui pour l'instant ont été cachés, éclipsés. Et je crois que nos lectures seront enrichies par la possibilité que des lectures nouvelles surgissent, et que ça ne se fera pas, ça, sans les femmes.
Est-ce que cette rencontre peut avoir des retombées, d'une certaine façon, par exemple, sur les femmes qui cherchent le leadership dans d'autres religions? Et là, je pense à l'islam.
Moi, j'en ai la conviction. Aujourd'hui, on est dans un temps où on a besoin, plus que jamais, de dialogue entre des forces progressistes au sein de nos traditions religieuses. Je l'ai vu, moi, à titre personnel, après la publication de mon premier livre qui s'appelait « En tenue d'Ève », où je parlais beaucoup de questions de féminin et de pudeur, dans la littérature rabbinique et dans les textes juifs, j'ai reçu énormément de courriers. J'ai été contactée par de très nombreuses femmes chrétiennes et beaucoup de femmes musulmanes qui m'ont dit à quel point la lecture du livre les encourageait dans leur propre tradition à réinterpréter ces notions de pudeur, de modestie, de corps voilé, de rapport au corps féminin et à l'érudition féminine. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui les uns des autres. C'est comme si on se donnait des clés de lecture que chacun pouvait ensuite aller traduire au sein de sa propre tradition. Et puis, c'est pas un scoop, le féminin continue à poser problème pour toutes nos traditions religieuses par les voies les plus traditionnalistes. Le point commun entre toutes ces voies traditionnalistes, toute tradition religieuse, tout monothéisme confondu, c'est que toutes ont une résistance vis-à-vis d'un féminin leader, d'une place politique pour les femmes au sein de l'institution religieuse. Et donc on a tout intérêt à œuvrer ensemble et à s'inspirer les unes des autres et les uns des autres dans nos lectures du féminin dans nos textes, qui nous attendent. C'est comme si les textes nous appelaient aujourd'hui à les lire autrement, et qu'on a une possibilité inédite à l'échelle de l'histoire de le faire.
Delphine Horviller, que l'on vient d'entendre, est la deuxième femme rabbin française après le rabbin Pauline Beb, qui a fait figure de pionnière en 1990 quand elle a été ordonnée. Depuis 1995, Pauline Beb est le rabbin dans le 11e arrondissement de la communauté juive libérale Île-de-France. Très active, mariée au rabbin Tom Cohen, cette mère de quatre enfants est l'auteur de livres marqués par une pensée sensible, délicate et généreuse. Son dernier livre, « Le cœur au bout des doigts » chez Actes Sud, s'inspire des perles de spiritualité cachées, écrit-elle, dans le quotidien, dans le creux d'une épaule, dans l'échange d'un regard plein d'amour. Alors, une première question posée à Pauline Beb. Comment a-t-elle vécu ce moment où toutes les femmes, toutes tendances confondues, ont dansé dans la bibliothèque de la maison Rachi autour de la Torah ?
Je pense que c'était un moment un peu magique, un moment où on se retrouvait autour du texte de la Torah qui nous rassemble. Nous avons des lectures certes différentes, mais c'est important de montrer que finalement on essaye de trouver des compromis, on peut discuter, on peut parler de ce qui nous anime, et nous sommes toutes et tous ici passionnés par les textes. Et je crois que cette capacité de remettre de l'humanité dans un dialogue, malgré nos différences, est fondamentale aujourd'hui.
Est-ce que vous avez le sentiment que le fossé, enfin, s'il y en avait, entre orthodoxes et libéraux, est en train de se rétrécir en quelque sorte ?
Je l'espère. Enfin, je ne sais pas si c'est un fossé. De toute façon, je ne pense pas que ça soit un idéal d'être tous pareils. C'est très important de maintenir ce pluralisme d'interprétation. C'est ce qui toujours a caractérisé le judaïsme. Il faut maintenir, c'est une force d'avoir différents regards sur un même texte. Mais évidemment, l'idéal est de pouvoir se respecter, de dialoguer ensemble dans le respect de ces différences.
Est-ce que vous estimez, c'est une question que j'ai déjà posée à d'autres, hein, est-ce que vous estimez qu'un congrès comme celui-là, qui réunit donc des tendances très différentes du judaïsme, qui ne réunit pas toutes les tendances du judaïsme, mais il y en a quand même un bon nombre, est-ce que vous estimez que c'est une sorte de message, voire d'exemple, pour d'autres religions ? Et là, par exemple, je pense à l'islam.
Je pense que c'est un exemple, oui. Je pense que, quelles que soient nos positions, nous pouvons dialoguer. Et dans toutes les religions, c'est vrai. Nous le faisons déjà, beaucoup d'entre nous. Et ce dialogue ne peut être qu'enrichissant. C'est-à-dire que confronter nos idées, c'est surtout notre regard sur le texte, à savoir si le texte, quel qu'il soit, d'ailleurs, puisque vous parlez de l'islam, ça peut être le Coran, ça peut être le Nouveau Testament, ça peut être notre Bible, le statut de ces textes sacrés. Comment les interpréter, comment les lire, est-ce qu'ils datent d'une certaine époque ou est-ce qu'ils sont pérennes, est-ce que c'est Dieu qui a dicté ces textes. Et je crois que toutes ces questions-là sont des questions qui traversent les mondes religieux. Notre attitude vis-à-vis de cela, notre possible distanciation ou notre lecture littérale. Et effectivement, discuter autour de ça, c'est de manière calme et apaisée, c'est un modèle pour tout le monde.
Alors, dernière question concernant ce centre Rashi. Est-ce que vous estimez qu'un centre comme celui-là, à Troyes, avec un certain état d'esprit, hein, l'esprit de Rashi, peut effectivement être fécond pour le judaïsme, mais aussi d'une façon plus générale, pour la réflexion, pour les grands défis de notre temps ?
Oui, je pense que la maison Rashi peut effectivement montrer l'exemple. Et je crois que ce personnage qui a influencé, comme ça a été dit lors du congrès, le monde entier, d'abord qui a traduit en ancien français les commentaires, ce qui implique une intégration dans la culture française, c'est aussi un modèle. Et effectivement, d'ici peut jaillir cette possibilité d'ouverture, de dialogue, de réflexion, ouverture au monde universitaire également, ouverture aux autres religions, et puis au dialogue inter- et intra-religieux, et aussi avec la société de manière générale, parce que finalement la laïcité, c'est ça, c'est la capacité de s'intégrer à une culture environnante tout en maintenant une identité, mais en essayant qu'il n'y ait pas de clash avec cette culture. Et évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce congrès, c'est-à-dire que on va interroger l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité que nous propose la société laïque et qui forcément a des échos dans les religions. Et évidemment, nous sommes reconnaissantes et reconnaissants de manière générale de ces réflexions qui ont eu lieu dans la société laïque. Et les religions doivent d'une certaine manière s'adapter, ou en tout cas se poser ces questions, jusqu'où va l'adaptation, et pouvoir avoir un modèle d'intégration dans la société française.
C'est-à-dire que les religions puissent se nourrir de l'esprit de la laïcité aussi ?
Évidemment, je pense que on a tendance à opposer les laïcs et les religieux, ou les croyants ou les non-croyants. Je pense que là aussi, c'est une fracture qu'il ne faut pas encourager, parce que nous sommes tous des êtres humains. Certains croient, d'autres pas, peu importe. C'est pas ça qui importe. Ce qui est important, c'est qu'on puisse faire dialoguer les démarches scientifiques, les démarches plus mystiques. Et ce sont toutes des démarches de sincérité. Lorsqu'on a entendu hier Dominique Schnapper ou Perrine Simon Naoum, la philosophe, ou Delphine Horviller parler, on a des approches qui sont toutes différentes et importantes. importantes. Et en fait, elles ne doivent en aucun cas s'exclure. Elles doivent au contraire tisser la tapisserie de l'humanité. Et ça, c'est très important de maintenir.
Vous écoutez l'émission Religion du Monde sur le congrès Les Filles de Rachi à Troyes, un événement au sein du judaïsme.
Je m'appelle Myriam Ackerman Sommer, je suis élève rabbin à la yeshiva, donc au séminaire Maharat à New York, qui est le premier séminaire aux États-Unis à donner l'ordination à des femmes orthodoxes. Et par ailleurs, j'ai également fait des études de littérature anglaise, donc je suis titulaire d'un master et je suis doctorante toujours en littérature anglaise et plus particulièrement en littérature juive américaine.
Myriam Ackerman Sommer, robe noire stricte, cheveux rentrés dans un large bonnet, arbore un doux et large sourire. Aucun goût particulier chez cette jeune femme pour la transgression et pourtant Myriam a lu la Torah revêtue des téphilines et du châle de prière. Une première pour une femme dans un office orthodoxe. Et Myriam n'a que 22 ans.
Oui, effectivement, j'ai eu le bac à 16 ans, ensuite j'ai fait une prépa. Qui m'a permis de rentrer à l'école normale supérieure à 18 ans. Et j'ai terminé ma scolarité cette année à l'école normale supérieure pour ensuite justement continuer sur le doctorat et j'aimerais bien être universitaire également.
Vous destinez à être rabbin, une femme rabbin ?
J'ai envisagé une sorte de cumul de métiers, effectivement. C'est-à-dire, je pensais que, si, quand on y pense, le métier du rabbin, c'est essentiellement d'être disponible le matin pour la prière, l'après-midi et le soir pour les cours. Et donc, en fait, une activité qui est conforme aux horaires des fidèles également, tandis qu'être universitaire, ce serait plutôt une activité en journée. Donc j'ai pensé une compatibilité de ces deux vocations que j'envisage comme étant inséparables. Donc effectivement, j'aimerais être d'une part universitaire et d'autre part avoir également une activité communautaire auprès de mon mari qui veut également être rabbin.
Et ça, parce que tous les deux, vous voulez créer une communauté en France, une communauté orthodoxe.
Tout à fait, une communauté orthodoxe. Orthodoxe moderne, ouverte sur le monde et sur la société qui nous entoure, qui rendent accessibles à tous nos textes, les textes de notre tradition, avec des cours mixtes qui, notamment, permettent aux femmes d'avoir accès aux textes dont elles sont peut-être privées d'habitude, ou auxquels, du moins, elles n'ont pas accès facilement. Donc nous aimerions étudier le Talmud, étudier tous les aspects de notre tradition avec hommes et femmes confondus en leur rendant accessible le texte dans la langue dans laquelle il est écrit, donc en hébreu et en araméen, en donnant les outils aux gens de comprendre notre tradition.
Alors comment peut-on être à la fois, je dirais, orthodoxe et demander à ce qu'il y ait une forme de parité homme-femme? C'est vrai que c'est une image que l'on n'a pas de l'orthodoxie.
Effectivement, c'est pourquoi le courant orthodoxe que nous représentons n'est pas accepté par tous les orthodoxes. Il y a des voix et de rejet, au contraire, de rejet très vif de ce que nous représentons. Je pense qu'il y a un pari très différent qui est fait par deux formes d'orthodoxie. Nous voulons, chacun de ces courants cherche à préserver une forme de tradition authentique. Mais tandis que certains pensent que pour préserver cette tradition, il faut peut-être la fossiliser, la préserver dans un écrin qui impliquerait une certaine séparation, le fait de se retirer du monde dont les influences seraient vues comme nocives, autant nous pensons que la parité est l'un des grands enjeux de la préservation de notre Torah qui ne va pas pouvoir perdurer dans sa vivacité, dans sa force de renouveau incroyable, si on ne la rend pas accessible aux femmes à une époque à laquelle, ce qui ne fut pas toujours le cas, mais à une époque à laquelle elles le voient et elles le perçoivent parfois comme un outrage, en fait. Le fait de ne pas avoir accès à la Torah fait que de nombreuses femmes que nous connaissons s'éloignent au contraire de la religion et vont chercher dans la société environnante une plus grande parité, puisque celle-ci est dans une évolution effectivement plus rapide vers une parité homme-femme. Tandis que nous disons, en donnant accès, en donnant aux femmes un accès plein et entier aux textes, peut-être pourront-elles se former leur propre vision des textes et à partir de là avoir une peut-être une religion plus authentique et mieux vécue en tout cas et intellectualiser cette tradition qui est souvent simplement reçue et pas réinterprétée.
Donc pour vous, vous retrouvez ici à Troyes avec des femmes du judaïsme libéral, du judaïsme orthodoxe, pour vous ça, c'est quelque chose d'extrêmement novateur ?
Oui, c'est extrêmement novateur parce que souvent les courants ont beaucoup de mal à dialoguer. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, des orthodoxes sur les libéraux, des libéraux sur les orthodoxes et de même pour les massorties ou conservatives. Et ce qui fait que nous avons besoin d'espaces de rencontre qui nous permettent, tout en préservant notre identité, nous pouvons nous percevoir comme des entités distinctes et pourtant il est essentiel que nous nous percevions également comme un même peuple, c'est-à-dire nous sommes le peuple juif et par conséquent, au-delà des différences peut-être de pratiques ou d'idéologie, il faut pouvoir dialoguer. Il faut aussi, et c'est ce que ce congrès permet au-delà même de la question des dénominations, il faut donner une parole, la parole aux femmes de mouvements différents. À cet égard, il est important que les femmes orthodoxes soient aussi entendues, puisque c'est peut-être quelque chose qui semble moins acquis, la participation des femmes orthodoxes au débat. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel, et je suis très honorée qu'on ait proposé aux femmes orthodoxes de participer à ce débat, et que nous soyons donc incluses pleinement dans cette discussion.
Vous avez 22 ans, vous faites membre d'une grande maturité spirituelle. Quel a été votre parcours ?
Eh bien, mon parcours a été très complexe. Je suis née dans une famille qui n'était pas religieuse ou qui ne pratiquait pas le judaïsme. Mon père était protestant. Et à partir de là, moi, j'ai eu un désir à l'adolescence de me rapprocher du judaïsme orthodoxe que je connaissais par une partie de ma famille qui était pratiquante. Par exemple, j'ai un oncle qui est rabbin à Paris. Et ça me donnait une autre vision et une autre voie possible qui m'attirait et qui a commencé à m'attirer beaucoup plus à l'adolescence, notamment lorsque je suis allée en Israël. J'ai ressenti un appel pour cette voie-là, le judaïsme. Et en partant faire mes études à Lyon, donc à 16 ans, je me suis rapprochée de communautés très orthodoxes que je fréquentais là-bas, mais qui avaient pourtant une ouverture intellectuelle, du moins, qui permettait aux femmes d'avoir accès à l'étude, du moins dans ma famille d'accueil, sinon dans la communauté de manière générale.
En choisissant le judaïsme orthodoxe, alors que votre famille n'était pas particulièrement pratiquante, si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça vous apportait, l'orthodoxie, la pratique orthodoxe ?
Alors je pense que quand je l'ai choisi, ça a commencé par m'apporter une structure forte, c'est-à-dire le fait que toute sa vie soit régie par un certain nombre de commandements ou de mitzvot, faisait que, dans un univers qui me semblait sans repère, je trouvais véritablement mes marques, en quelque sorte. Et c'est seulement ensuite, avec l'étude, que j'ai pu vraiment approfondir les raisons profondes, existentielles et philosophiques qui faisaient que nous observions tous ces commandements, et notamment, par exemple, si on prend le Shabbat, où il y a énormément de contraintes, en fait, après, on découvre que c'est lié à la sanctification du temps, donc le fait d'inscrire une véritable spiritualité dans la matière, tout cela, c'est ce que nous permet une certaine orthopraxie, si ce n'est une orthodoxie, le fait d'avoir une pratique rigoureuse et stricte. Et ça me semblait être le propre de l'orthodoxie. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce mouvement, où il me semblait y avoir un plus grand engagement de l'ensemble de la communauté quant à l'étude et quant au commandement. Et en arrivant à Paris, j'ai ressenti comme un vide, parce que tout à coup, il devenait très difficile pour les femmes. Et pour moi, quand je cherchais à intégrer des cours préexistants, on me disait non, ce n'est pas mixte. Et donc, ces cours-là étaient réservés aux hommes. Et tout à coup, je me suis dit, alors, il faut que j'aille peut-être voir du côté d'autres mouvements. Et donc, j'ai fréquenté à un moment donné un cours, ma sortie auprès du rabbin Yeshaya d'Alsace. Mais il me manquait quelque chose au niveau de la pratique, de la rigueur, dans l'exécution des commandements de la Torah. Et donc je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est une nouvelle voie au sein de l'orthodoxie. Et donc j'ai rencontré mon mari à peu près à ce moment-là, donc il y a 2 ans et demi, quand j'avais 20 ans. Et mon mari faisait du droit, mais j'avais l'impression que ça ne l'intéressait pas vraiment. Je lui dis, écoute, tu devrais être rabbin, c'est ce qui semble t'intéresser le plus. Et il m'a dit, en plaisantant, et pourquoi pas toi ? Et donc, je prends toujours les plaisanteries au premier degré. Et donc, je me suis renseignée. Je cherchais un séminaire qui propose l'ordination aux femmes. Et j'en ai trouvé un, donc, à New York. Et j'ai constaté que dans le même établissement, qui se situe à Riverdale, fondé par Avi Weiss, les hommes et les femmes, dans des établissements séparés, mais dans le même bâtiment, pouvaient obtenir l'ordination. Et je me suis dit, donc c'est idéal, nous pourrons être unis dans l'étude également, et profiter de ce que pourra nous apporter cet établissement. Et notre but était ensuite de revenir, créer une offre en France qui n'existe pas encore. Alors nous ne voulons ni bouleverser les cadres de l'orthodoxie, ni dire aux libéraux qu'ils sont obsolètes, mais simplement créer une autre voie dans un univers où les voies plurielles ont toute leur place dans le judaïsme.
C'est vous ce matin qui avez lu la Torah, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Donc, ce qui n'est pas accepté par tous dans l'orthodoxie.
Parce qu'il y a des... Il me semblait que certaines femmes orthodoxes s'engageaient à ne pas lire la Torah quand elles commençaient leurs études.
Du moins, certaines femmes orthodoxes s'engagent effectivement à ne pas participer pleinement aux offices. Je pense que chaque séminaire, et chaque séminaire moderne, orthodoxe moderne, puisqu'en fait ça recouvre énormément de nuances assez subtiles, chaque courant orthodoxe moderne va avoir sa propre version. Et ce qui fait que certains vont plutôt encourager les femmes à lire et d'autres à ne pas lire. Dans mon propre courant, nous sommes plutôt encouragés en tant que femmes à lire lorsque nous en avons l'occasion, à lire dans la Torah. Ça peut être fait face à un public uniquement féminin ou dans un public masculin lorsqu'il y a un quorum de 10 hommes rassemblés. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans une tradition tout à fait égalitaire. Puisque notamment nous considérons que les femmes ne peuvent pas faire l'intégralité de l'office mais ont besoin des hommes pour certaines parties, mais nous essayons d'évoluer vers une conception plus égalitaire tout en disant que ça prend du temps, de l'énergie et de la réflexion légale, puisque le judaïsme est aussi très ancré dans une loi dont on ne peut faire progresser dont on peut faire progresser la forme que très lentement. Et c'est peut-être ça que nous avons aussi et qui nous sépare en quelque sorte des courants libéraux, c'est cette lenteur dans l'évolution de la loi, mais qui pour nous a pour sens de rester très proche de la tradition le plus possible dans le but de la préserver, dans le but que rien ne se perde.
Lire la Torah devant un public féminin et masculin avec le châle de prière, c'est ça ?
Oui.
C'est ça. Comment vous avez vécu ce moment ?
C'était exceptionnel. Je crois que c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de le faire dans ce cadre-là. Donc, c'était une occasion exceptionnelle pour moi. Je suis touchée au moment où j'en parle. Je crains aussi que ça fasse du bruit au sens négatif, c'est-à-dire qu'il y ait des pans de la communauté orthodoxe française qui réagissent négativement et qui disent que j'ai outrepassé les bornes de l'orthodoxie et que décidément, nous, orthodoxes modernes, sommes bien des libéraux comme les autres parce que les nuances ne sont pas toujours perçues, justement. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que ça sera perçu non pas comme une revendication féministe, mais comme une inscription dans le rituel le plus traditionnel. Et que, en fait, d'ici quelques années, nous espérons que ce ne sera plus du tout une revendication féministe, mais quelque chose de tout à fait ancré dans le paysage religieux, et que ce sera tout à fait naturel, et que ce sera l'un de nos devoirs religieux, un parmi tant d'autres, et que donc il n'y aura pas lieu de s'en étonner, et qu'au contraire, ça deviendra quelque chose de tout à fait naturel.
Là, vous vous êtes affirmée ce matin en vraie fille de Rachi.
Oui, je vous remercie beaucoup. J'espère me montrer digne en tout cas de cet héritage et de la sagesse qu'ont eu les figures féminines dont nous avons parlé ce matin dans notre tradition, qui sont des figures des femmes fortes. Je trouve que c'est très exigeant, c'est une voie très exigeante qui est dessinée pour nous. Et j'espère en être digne, avoir la force en tout cas d'incarner cette voie dans le judaïsme français.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Daniela Toiti aura davantage attendu que Myriam Ackermann pour s'engager dans des études pour devenir rabbin. Début juillet, elle a été ordonnée rabbin et est devenue ainsi la quatrième femme rabbin de France dans le judaïsme libéral. Elle exercera à Lyon, sa ville natale, depuis 20 ans, où elle a assumé des responsabilités en tant que laïque dans sa synagogue. C'est en 2014 qu'elle décide de devenir rabbin, l'obligeant pendant 5 ans à vivre entre Lyon et Londres pour étudier au Leo Bach College. Née en Roumanie, Daniela Toiti est partie avec ses parents à l'âge de 7 ans en Israël, puis est venue en France faire ses études et elle va mener une carrière professionnelle, notamment dans les ressources humaines. Et comme elle nous le raconte, elle a grandi dans une famille qui ne pratiquait plus.
En fait, je viens d'une famille complètement laïque, qui a vécu la Shoah et qui a en fait rejeté la partie religieuse, mais pas la culture, ni bien sûr, et encore moins le sionisme. Et moi, j'ai fait la démarche de revenir vers ses racines plus juives, mais dans le sens religieux, avec mon mari, quand j'ai rencontré mon mari à Paris, en fait, à Copernic, et ensuite... pour éduquer nos enfants dans ce judaïsme-là, qui est égalitaire. Et donc, je me suis investie à notre synagogue à Lyon et je suis devenue présidente de cette synagogue. Et c'est en parallèle, bien sûr, à ma vie professionnelle. C'était un travail bénévole. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit que je voulais passer de l'autre côté et devenir, en fait, rabbin, c'est-à-dire accompagner des personnes à la fois qui voulaient retrouver leurs racines juives, qui voulaient devenir juifs, qui voulaient vivre, en fait, leur judaïsme et les étapes de la vie dans le judaïsme, et me consacrer à cela plutôt que à une vie professionnelle qui certes avait beaucoup de d'avantages et de joie, mais pas autant à mon avis que cette vie là.
Le thème dominant de ces journées ici à Troyes, c'était le leadership, le leadership féminin. Alors comment vous vous envisagez le leadership dans le judaïsme? Alors même dans le judaïsme libéral, bon, bien sûr, on sait que les femmes ont vraiment leur place, mais enfin bon, ça n'est quand même pas un leadership de complet.
Alors même dans le judaïsme libéral, c'est pas aussi simple qu'on ne le dit. On vit quand même en France où il y a un modèle en entreprise aussi, hein, qui est plutôt, on va dire, où on favorise plus les hommes encore, et un modèle à tout niveau, politique, social, etc. Donc on le retrouve bien sûr dans les synagogues. Et lorsqu'on accède à un rôle de leadership, que ce soit comme présidente à l'époque ou maintenant comme rabbin, on sent qu'il y a, comment dire, des personnes qui viennent un peu contre, enfin tester, ce qui, à mon avis, ne se permettrait pas avec des hommes. Ils testent, en fait, nos connaissances, ils vont tester est-ce qu'on est vraiment fait pour ça, est-ce qu'on va vraiment tenir le rôle. Donc, parfois, c'est pas facile, mais je le prends de façon très, pas cool, hein, mais on va dire très calme. Et je ne veux pas rentrer en conflit, je ne veux pas me mettre en colère. On a parlé beaucoup de colère hier, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour être moins en colère, parce que c'est vrai que c'est peut-être par la colère que je suis arrivée à ça, parce que j'avais une forme de revanche à prendre par rapport à un judaïsme très, très, très misogyne, il faut le dire, hein, encore aujourd'hui, dans le milieu orthodoxe, et qui ne me convenait pas. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent être rabbins dans le milieu orthodoxe. Mais aujourd'hui, tout ça, en fait, je pense que c'est beaucoup plus digéré et je suis en paix avec ça, et je le fais pas pour me battre, mais pour donner une image peut-être différente de ce que c'est le rabbinat.
Alors hier, on a dit qu'il fallait finalement transformer, ce qui est très juif, hein, transformer la colère en humour. C'est aussi une arme,
oui,
ça.
Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire que, au lieu de me prendre au sérieux quand je fais un office, j'essaye de le faire effectivement beaucoup plus léger et beaucoup plus interactif avec les personnes qui participent. Je vais apostropher des personnes dans la salle, pour qu'il y ait ces échanges et pour qu'on soit moins dans un rôle hiérarchique ou d'autorité. Enfin, c'est vrai qu'il faut une autorité, et elle doit être, si possible, naturelle, et pas quelque chose, voilà, où il faut le marquer de manière très ferme, mais au contraire, il faut le faire avec souplesse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, j'ai appris à travailler pour que ça passe de façon plus fluide, en fait, avec les personnes, et qu'ils viennent vers vous parce que vous représentez la loi et l'autorité, et quelque chose de froid et peut-être de sévère, mais parce qu'ils savent qu'avec moi, ils vont avoir une réponse peut-être plus chaleureuse, peut-être plus maternelle, peut-être, voilà.
C'est féminine, hein.
Effectivement, oui. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde, le rabbinat se féminise, hein, parce qu'il y a quand même 1000 femmes rabbins dans le monde, hein, il faut le savoir. Et du coup, ça apporte effectivement ce côté, à côté d'un homme paternel, on va avoir une femme plus maternelle. Et on peut jouer sur ces deux aspects, même en étant une femme ou en étant un homme, voilà, aujourd'hui.
Donc ça veut dire que lorsque vous dirigez un office, il y a donc des femmes et des hommes qui sont ensemble, hein. C'est bien
oui,
cela.
Exactement, oui, bien sûr, c'est mélangé, c'est mélangé, on va dire, dans la salle, et les voix se mélangent, et voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le mouvement libéral, pour pouvoir être assise à côté de mon mari, par exemple. ça semble rien, mais c'est important de pouvoir partager ce moment, et de pouvoir chanter ensemble, pouvoir vivre un moment de spiritualité ensemble.
Quelles sont les limites, hein, Il y a des limites malgré tout, non? Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout?
Entre hommes et femmes? Écoutez, non, on va pas s'embrasser dans la synagogue, non, ça c'est cool. Non, il y a pas de limite. On va monter à la Torah aussi bien hommes et femmes. On va apprendre, étudier ensemble. Ma yeshiva à Londres est mixte. Voilà, il y a aucun.
Vous portez le talit, hein.
Bien sûr, les téfilines. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas encore mis les téfilines quotidiennement. C'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi, mais je peux le faire. Je sais que je peux le faire et que je l'ai déjà fait, mais voilà.
Alors ici, ce qui est étonnant, c'est que pas mal de femmes portaient la kippa.
Oui. Donc ça aussi, bien sûr, la kippa, qui n'est pas par contre, quelque chose qui est nécessaire par la loi juive, c'est plus une coutume. Et c'est assez amusant qu'on se l'ait approprié plus que les téfilines, qui est en fait un commandement. Les femmes se sont appropriées, les femmes libérales bien sûr, mais même les femmes orthodoxes se sont appropriées assez facilement la kippa. Alors il y en a qui portent plus des chapeaux ou des petits, voilà, quelque chose de plus féminin, mais en fait oui, la kippa est quelque chose d'assez habituel, voilà.
Et est-ce que vous vous sentez la figure de proue en quelque sorte, hein, voilà, d'un navire qui va conduire à une évolution, hein, du judaïsme?
Alors il y a des femmes qui m'ont précédée, heureusement, les trois que vous connaissez qui sont à Paris, Pauline, ensuite il y a eu Florian Chinsky et Delphine, qui est rabbin depuis 10 ans maintenant, et donc moi je vais être la première en province. Et c'est vrai qu'il y a encore du travail en dehors de Paris, on va dire, pour aussi donner une autre image du rabbinat et montrer qu'on peut être femme et rabbin, ou rabbin et femme, peu importe. Et je vois déjà que ça peut donner. En fait, dans les cours que je donne, que ce soit à Paris ou à Lyon, je vois que les femmes ont soif de ça. Elles ont besoin de modèles, en fait. Et les prochaines qui arrivent, il y a quelques candidats qui veulent continuer à être donc étudier pour être rabbin. Il y a plusieurs femmes et il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est déjà en train de changer.
Comment va se dérouler votre ordination?
Alors c'est vrai qu'on a emprunté un mot de la chrétienté, ordination, parce qu'en fait on parle de asmacha en hébreu, c'est la position des mains. En fait c'est une cérémonie qui va être commune. On est 4 dans ma classe, on est 4 à être en même temps à devenir rabbin, et chacun a choisi un rabbin qui va en fait apposer les mains et donc donner, conférer, si vous voulez, la fonction de rabbin. Pour moi ce sera Pauline, et donc ça se passe le dimanche après-midi. C'est un office assez court, hein, où on va faire une cérémonie. Donc elle va m'apporter la Torah et je vais la porter, etc. Et je vais aussi faire un discours. Il y aura pas mal d'autres discours, notamment des professeurs, du principal du collège, etc. Et puis ça va se conclure par une fête. On va danser, enfin voilà, comme il se doit.
Voilà. Vous attendez ce moment avec impatience?
Oui, parce que ça fait 5 ans quand même que j'ai commencé mes études, et surtout c'était entre Londres et Lyon, mais aussi Paris. Cette année, oui, j'étais un an en stage à Keilat Guécher, et c'est vrai que j'attends avec impatience, oui.
Daniela Touati, 4e femme rabbin de France. Ainsi s'achève notre rencontre avec les filles de Rachi, le nom du congrès qui vient de se tenir à Troyes. C'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delerue et réalisée par Sandrine Straram. À dimanche prochain, bonne semaine à tous. We'll be right back.